RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, au micro Frédéric Mounier, bienvenue dans ce studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Où va l'Ukraine ? Pour répondre à cette question difficile, nous allons plutôt nous interroger dans l'autre sens. D'où vient l'Ukraine ? En effet, nous ignorons complètement cette histoire. Et donc, nous avons besoin d'être éclairés sur cette question. Avec nos deux invités aujourd'hui, nous allons tenter de remonter le cours de l'histoire de l'Ukraine et aussi de la Russie pour y trouver des clés de compréhension de ce conflit fratricide qui déchire cette partie du monde. En studio avec nous à Paris, Michel Fouché, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes à la fois diplomate et géographe. Vous avez été notre ambassadeur à Riga, en Lettonie, de 2002 à 2006. Vous avez travaillé auprès d'Hubert Vidrine au ministère des Affaires étrangères, dont vous avez dirigé le Centre d'analyse et de prévision de 1999 à 2002. Et vous avez publié, je le rappelle, l'an dernier, vos mémoires d'un géographe politique. C'est chez Robert Laffont. Et vous étiez déjà venu au micro des Racines du Présent à cette occasion. Aujourd'hui, vous publiez chez Gallimard, dans la collection Tract, une petite brochure tout à fait intéressante à lire, qui s'intitule « Ukraine-Russie, la carte mentale du duel ». Et puis, nous sommes en ligne depuis l'Ukraine avec Constantin Sigoff. Bonjour, Constantin Sigoff.
Bonjour, je vous salue.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous dirigez à Kiev le Centre européen à l'Université Mohyla. Vous avez été à Paris de 92 à 1995 un directeur d'études associé à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez contribué également à l'établissement du vocabulaire européen des philosophies. Ça a été publié en 2004 au Seuil, en coédition avec les éditions du Robert. Et puis, vous avez fondé à Kiev une maison d'édition intitulé « L'esprit et la lettre ». Et je rappelle également que vous avez soutenu la révolte du Maïdan. Et donc, votre dernière publication en France s'intitule « La lettre de Kiev ». Elle a été publiée au début du conflit aux éditions du CERF dans la collection « Placard et Libelle ». Voilà, l'Ukraine, une si vieille histoire, ce sera le thème de cette édition des Racines du Présent.
Les Racines du Présent. Frédéric Mounier.
Alors je me tourne d'abord vers Michel Fouché. Je rappelle que vous avez arpenté depuis 30 ans ces contrées d'Europe, Europe médiale et orientale. Vous avez beaucoup conversé avec des stratèges, des géographes russes, des diplomates polonais, des politiciens ukrainiens. Vous connaissez très très bien ce monde-là. Lorsque vous étiez ambassadeur à Lettonie en Riga, vous avez écouté la population russophone de ce pays, très importante. Vous avez ausculté ses relations avec son grand frère. Alors nous allons essayer de retracer avec vous la cartographie mentale de l'Ukraine, c'est historique. C'est une histoire que nous connaissons très très mal, Michel Fouché, nous Français.
Oui, parce que il y a plusieurs obstacles. D'abord, oui. Le caractère binaire de la Seconde Guerre mondiale à l'Ouest, alors que à l'Est, il y avait évidemment ce combat entre Hitler et Staline, mais il y avait aussi des guerres dans la guerre.
Voilà.
Et pas seulement la Shoah, des règlements de compte, des questions de retournement d'alliance. Le récit de la Seconde Guerre mondiale n'est pas le même, évidemment, à Moscou et sur les plages de Normandie.
Voilà.
Ça, c'est le premier point.
Et il n'est pas le même non plus à Kiev.
Et il n'est évidemment pas le même à Kiev. On oublie quand même qu'à Kiev, il y avait 6 millions d'Ukrainiens dans l'armée rouge. Malheureusement, la steppe ukrainienne a été l'un des trois grands champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale parce que c'était la route du pétrole de Bakou. Et l'armée rouge, en effet, a arrêté l'armée allemande à Stalingrad. Donc ça. Ensuite, vous avez le récit de ce qui se passe après. Moi, à Riga, c'était très clair. Bien sûr, l'armée rouge libère, entre guillemets, les pays baltes, ça c'est mon expérience directe, du nazisme et des armées allemandes, mais ça se traduit ensuite immédiatement par une occupation. Sauf que ça avait déjà été préparé par le pacte Ribbentrop-Molotov, qui est un document du 23 août 1939, qui montre bien déjà avant même, qu'il y avait déjà une intention de partage, même si pendant un an et demi, il n'y a pas de conflit armé, il n'y a pas d'opération. Donc, notre ignorance des histoires nationales, dans des régions, et je pense en particulier à l'Ukraine, qui est une nation ancienne, mais un État-nation tard venu sur la carte de l'Europe.
Oui.
Pourquoi tard venu? Parce qu'il y a eu l'Empire polonais, l'Empire russe, l'Empire polonais. Avant, il y a eu la Suède, il y a eu au sud l'Empire ottoman, notamment en Crimée.
Et
donc,
va revenir sur tout
donc
ça,
hein. Cette ouais. nation ukrainienne, qui a sa langue depuis 1845, ne peut pas faire État-nation. Or, toute l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire du passage des empires aux États-nations.
Oui.
Et c'est pour ça que moi, je redoutais ce conflit, puisqu'on a en face de soi, en Ukraine, une élite, des populations, des historiens, des militaires, un président, qui n'accorde aucune importance à cette formation nationale en construction, et qui veut la fusiller. Pour reprendre une expression des historiens sur les années 30, lorsqu'après une certaine ouverture linguistique, Staline réprime et on parle à ce moment-là de renaissance fusillée.
C'est
la tentation actuelle, mais ça ne marchera pas.
C'est la tentation de Vladimir Poutine.
Mais ça ne marchera pas.
D'accord. Constantin Sigov, vous avez écouté Michel Fouché qui nous rappelle les raisons de notre ignorance, cette sorte de myopie que nous avons à propos de la Seconde Guerre mondiale. Dans votre lettre de Kiev publiée au CERF, dans la collection Placard et Libelle, vous insistez aussi sur ce souvenir de la grande famine de 1932-1933 qui a fait 2 à 5 millions de morts. C'est bien ça, Constantin Sigov?
Oui, et là, c'est une tragédie qui n'a pas été arrêtée, qui n'a pas été vraiment prise au sérieux dans les années 30. Et aujourd'hui, avec le chantage par rapport au blé de l'Ukraine et donc le danger d'une famine planétaire, nous sentons, nous attendons comment c'est grave, justement, oublier le crime du passé et donc pour ne pas vraiment être à même à nous préparer pour résister au crime qui se déroule devant nos yeux.
Alors, vous avez entendu Michel Fouché évoquer le caractère extrêmement nouveau de cette État-nation qui s'applique encore avec précaution à l'Ukraine. Est-ce que vous considérez les choses de la même façon que Michel Fouché sur cette naissance très très tardive d'un État-nation dans votre pays, l'Ukraine, Constantin Sigov?
Écoutez, d'une part, j'enseigne à l'université de Kiev qui était fondée en 1615, c'est-à-dire c'est l'époque de, n'est-ce pas, Blaise Pascal, Descartes, etc. À cette époque-là, sur le plan universitaire, on était plutôt sur la même longueur d'onde et à Kiev, on enseignait pendant 2 siècles en latin, c'est-à-dire on avait aussi une correspondance en latin entre Kiev, Paris et d'autres capitales universitaires. D'autre part, sur le plan politique, effectivement, les empires, et en particulier l'empire russe, de plus en plus, à partir du surtout 18e siècle, effectivement, annuler un certain nombre de libertés, parce que Kiev, par exemple, faisait partie de cet archipel des droits des Magdebourg, des villes marchandes, aussi bien en Pologne, en Allemagne, etc. Et plus près de notre époque, au XXe siècle, effectivement, 1939, c'est la date de l'occupation par l'armée rouge de l'Ukraine occidentale, aussi de la partie de la Pologne, etc. C'est-à-dire les 2 années lorsque Staline est allié de Hitler, entre 1939 et 1941, effectivement, toute une partie de l'Ukraine occidentale qui est occupé, qui donc n'a jamais vu le pouvoir soviétique dans les années 20, aussi dans les années 30. Et donc nous avons aujourd'hui en Ukraine une génération de gens qui se souvient parfaitement leur vie hors du pouvoir soviétique, hors de et d'autre part aussi la mémoire des persécutions apportées par l'armée rouge. Déjà en 1939 et ensuite, seconde fois, dans les années 40. Et vous savez que la résistance ukrainienne en Ukraine occidentale durait jusqu'à les années 50. C'est-à-dire, nous nous souvenons parfaitement le prix à payer pour être libre face au KGB, au pouvoir soviétique.
C'est une mémoire qui est encore vive chez vous. Michel Fouché, dans votre brochure intitulée « Ukraine-Russie, la carte mentale du duel » qui est publiée dans la collection Tract chez Gallimard, vous rappelez ces propos de Václav Havel en 2005 et qui avait publié une tribune dans le quotidien Le Monde et qui avait rappelé cette ligne de fracture qui longe l'Ukraine. Est-ce que vous pourriez nous rappeler l'existence de cette ligne de fracture qui est en quelque sorte constituante de l'Ukraine, Michel Fouché?
Alors c'est une zone, l'isthme baltique mer Noire est une zone de confins disputée pendant des siècles entre en gros quatre empires.
Allez-y, expliquez-nous.
L'empire Charles XII, la grande puissance suédoise de l'époque, les Ottomans au sud, Pierre le Grand qui sort de Moscovie et l'empire polonais ou polono-lituanien. Ça c'est pour le passé et en effet les lignes de front vont fluctuer. Alors la Suède c'est très important parce que il se trouve que le président russe a visité il y a une dizaine de jours une exposition à Moscou marquant le 350e anniversaire de la naissance de Pierre le Grand. Et je vais me permettre de citer ce qu'il dit.
Allez-y.
Nous venons de visiter une exposition consacrée au 350e anniversaire de Pierre le Grand. Il y a une statue de Pierre le Grand dans son bureau au Kremlin.
D'accord.
Je le signale, il est de Saint-Pétersbourg. C'est étonnant, dit Poutine, mais presque rien n'a changé. Pierre le Grand a mené la guerre du Nord. On a l'impression qu'en combattant la Suède, il s'emparait de quelque chose. Il ne s'emparait de rien. Il reprenait. Il nous incombe aussi de reprendre et d'en renforcer. Il y a eu des époques dans l'histoire de notre pays où nous avons été obligés de reculer, mais maintenant on a repris des forces et on va de l'avant.
Voilà,
c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est une logique historique, impérialiste, moi je dirais coloniale.
Oui.
Et ça aussi c'est un autre aspect que nos amis africains en particulier, qui ne condamnent pas Poutine dans la dernière réunion Europe-Afrique à Addis Abeba la semaine dernière, n'arrivent pas à penser qu'il y a des colonies qui ne sont pas d'outre-mer mais qui sont d'outre-terre.
D'outre-terre.
Donc d'une certaine façon on pourrait dire qu'on a une guerre d'émancipation nationale en Ukraine et on a presque une guerre de décolonisation si vous voulez. Et en effet les références historiques réorganisées sont extrêmement puissantes.
C'est-à-dire falsifiées
Poutine historien, qui écrit un texte en disant en gros, ukrainiens, russes et biélorusses, c'est un seul peuple, les grands russes, les petits russes et les russes blancs. Autrement dit, l'Ukraine est une fiction cartographique.
C'est ça la
c'est
thèse
une fiction, c'est l'une de ses thèses, si
et
vous
voulez.
Et
pour justifier cette thèse, il se fonde sur une certaine vision de
Pour justifier
de
l'attaque,
russe.
Il se fonde sur une attaque probable de l'OTAN, qui préparerait contre la Russie une nouvelle opération Barberousse à la mode d'Hitler.
Voilà.
Mais ça, c'est un argument, si vous voulez, qui permet de convaincre les pays membres des Nations Unies qui ne sont pas en Europe.
Alors on va revenir sur cette historique des relations ces derniers temps avec l'OTAN. Mais d'abord, je me tourne à nouveau vers Constantin Sigoff. Est-ce que vous partagez cette grille de lecture qui nous est proposée par Michel Fouché sur ce parallèle entre que fait Vladimir Poutine avec Pierre le Grand, Constantin Sigoff?
Nous sommes d'accord que, évidemment, Poutine, dans aucun cas, n'est l'historien. Il falsifie l'histoire avec les esclaves qui l'entourent, en particulier, malheureusement, les fonctionnaires du ministère de l'Éducation et des centaines de recteurs des universités en Russie, avec leur recteur de l'Université de Moscou, ont signé une pétition en faveur de la guerre. Et sans faire l'ironie, ce sont précisément eux qui incarnent le modèle de ce ministère sur les façades duquel était inscrite la devise « La guerre, c'est la paix » dans le roman de George Orwell, 1924. Voilà.
Donc il s'agit vraiment, si je vous entends bien, d'un système de pensée qui est diffusé dans les universités et dans les écoles russes. C'est bien ça, Constantin Sigoff?
C'est bien ça. Et en plus, cet ouvrage, qui n'est pas antitotalitaire par excellence, est officiellement reconnu interdit, dangereux. Il y a deux semaines, il était retiré de la vente et interdit en bibliothèque en Biélorussie et donc en Russie aussi. Donc, si vous voulez, c'est là la vraie histoire.
Oui, vous écrivez, Constantin Sigoff, dans votre libelle publiée au CERF, Vladimir Poutine se livre à un montage des faits de l'histoire, comme on monte des séquences au cinéma.
Oui, et malheureusement, il est accompagné justement par la... Encore une fois, les spécialistes du montage du cinéma. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'histoire, même au XXe siècle. Encore une fois, admettre qu'il était allié de Staline et Hitler en 1939, c'est un crime d'État. C'est-à-dire qu'il y a des faits incontournables historiques qui sont totalement interdites. C'est-à-dire on n'a pas des repères et malheureusement, effectivement, on n'aime pas, par exemple, aussi les manuels d'histoire publiés dans les pays baltes, en Pologne et en Ukraine. Mmh. On n'aime pas en Russie l'actuel manuel d'histoire de l'Ukraine, mais le nouveau manuel d'histoire de notre pays leur plaira encore moins.
Michel Fouché.
En continuité de ce que dit notre ami Constantin Sigoff, je rappelle que le négociateur... Pour l'instant, il n'y a rien qui se négocie, mais qui a été choisi par le Kremlin pour échanger à ce stade avec la partie ukrainienne. Encore une fois, il n'y a pas de négociation pour l'instant. Ce n'est pas un diplomate du MID. Ce n'est pas un stratège. Ce n'est pas un médiateur. C'est l'ancien ministre de la Culture, Vladimir Medinsky, hein, qui pendant 10 ans a réhabilité Staline et la Kalachnikov, qui est l'attribut parfait de l'homme russe, selon lui, et qui a réécrit le manuel d'histoire de classe de terminale de la Russie. Il y en avait 64. Poutine a dit, mais il n'y a pas besoin de 64, il n'y a qu'un manuel nécessaire. Et donc, c'est lui qui a été choisi. Donc, les Ukrainiens ont en face d'eux quelqu'un dont la thèse est qu'il n'existe pas.
C'est ça.
Hein, et qui diffuse cette femme qui dit votre voisin rentre chez vous, prend les clés, prend vos affaires dans le placard, va sur votre lit et vous explique que c'est pas vous qui êtes sur la photo, mais que c'est lui.
Oui,
c'est exactement ça.
D'accord.
Medinsky dit aux Ukrainiens, c'est vous n'existez pas.
Vous n'existez pas.
C'est le fond de l'affaire, ça. Hein.
Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé au XXe siècle, notamment sur les relations entre l'OTAN et la fin de l'Union soviétique. Mais avant cela, Michel Fouché, je voudrais remonter plus haut dans l'histoire. Vous avez commencé à nous expliquer tout à l'heure ce qui s'était passé avec la Suède, mais vous évoquez cet isthme important entre l'Eurasie et la péninsule européenne comme étant la route des Varègues aux Grecs. On remonte il y a très très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes étapes de cette histoire ancienne?
Il y a des liens anciens qui datent de, enfin, qui sont documentés à la fin du premier millénaire. Les Varegs, c'est l'équivalent de nos Vikings.
Oui.
Les nôtres, ils étaient danois et norvégiens. Eux, c'était des Suédois de Gotland, qui avaient du fer, des fourrures, de l'ambre, etc., qui remontaient à partir de Riga. Moi, j'ai découvert ça à Riga. La vallée de la Daugava, qui passait sur les interfluves et qui redescendait par le Dniepr quand c'était navigable, pour commercer avec la grande puissance économique, culturelle et politique de l'époque, l'Empire byzantin.
Mmh.
Et la ville de Kif se trouve, pas à mi-chemin, mais enfin à 60% du chemin entre la Baltique et la mer Noire. Donc c'est un acte, si vous voulez, Kif et d'autres villes, d'ailleurs Novgorod, Souzdal, viennent de ces échanges commerciaux.
Depuis
et c'est d'ailleurs, le mot russe, qu'il ne faut pas confondre avec russe, le mot russe, c'est un mot grec, c'est un mot byzantin pour désigner les Varègues.
Mmh.
Et cet état avec plusieurs villes commerçantes va prospérer jusqu'à la destruction par l'invasion mongole au début du XIIIe siècle.
Et ensuite, alors,
il y a des relais qui sont pris parce que sous l'invasion mongole, les princes de Moscovie apprennent à courber les chines et commencent à se diffuser, à faire des alliances avec les villes commerçantes. Et à ce moment-là, évidemment, la Rousse de Kiev est détruite.
Mmh.
Mais la conversion à l'orthodoxie byzantine se traduit ensuite par un transfert vers du métropolite, vers d'abord Souzdal, Novgorod, puis Moscou, ce qui permet ensuite aux élites russes aujourd'hui d'affirmer la continuité. Et donc, quand on commence à dire que le pays qu'on veut conquérir est le berceau de votre nation,
voilà,
ça rappelle Milosevic au Kosovo. Hein, c'est-à-dire le Kosovo, berceau de la nation serbe, donc le berceau est à nous, forcément. Alors
d'accord,
que c'est absolument pas le cas, puisque vous avez des coupures historiques majeures.
D'accord.
Là aussi, il y a une réécriture de l'histoire.
Et enfin, les tensions avec la Pologne ont été extrêmement importantes également, Michel Fouché.
Ben, la Pologne, là aussi, c'est un pays qu'on sous-estime complètement. Ça a été une grande puissance.
Mmh.
Les Polonais sont allés jusqu'à Moscou. Ils ont brûlé Moscou en 1612. C'est la grande nation rivale de la nation russe dans l'histoire. Et aujourd'hui, la Pologne, forte de la garantie de sécurité américaine, est intéressée par le contrôle du glacis baltique mer Noire, c'est-à-dire la Lituanie s'est réglée, la Biélorussie et l'Ukraine. Donc vous avez quand même des lignes de force en dehors du drame et de la tragédie actuelle que je ne veux en aucun instant je n'oublie ce qui se passe actuellement, cette agression criminelle. Mais en longue durée, on voit la politique de la Pologne, c'est de faire en sorte que y a un changement de régime en Biélorussie. D'ailleurs, ça se fera. Ça se fera un jour, la Biélorussie évoluera. Et même chose dans ce soutien à l'Ukraine, il faut un glacis pour se protéger de l'agressivité russe.
Les racines du présent. RCF.
Au micro, Frédéric Mounier, nous sommes en compagnie de deux historiens, diplomates, philosophes. D'une part, Michel Fouché, géographe et diplomate français, à partir de sa petite brochure publiée aux éditions Gallimard, Ukraine-Russie, la carte mentale du duel. Et puis, nous sommes depuis l'Ukraine avec Constantin Sigoff, à partir de sa lettre de Kiev, publiée au début du conflit, aux éditions du Cerf, dans la collection Placard et Libelle. Alors, Michel Fouché, vous venez de nous restituer les grandes lignes de l'histoire de fond de ce pays, l'Ukraine, dont nous redécouvrons avec vous à quel point il correspond à une réalité historique très très ancienne et très 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 partagée, tiraillée entre d'une part l'Empire russe, d'autre part le royaume de Suède, le royaume de Pologne. Je me tourne vers Constantin Sigoff. Quelle est la conscience historique qui est celle des Ukrainiens aujourd'hui? De quoi les Ukrainiens savent-ils qu'ils sont l'héritier? Que leur enseigne-t-on aujourd'hui en classe d'histoire en Ukraine, Constantin Sigoff?
Écoutez, d'une part, nous passons à côté de la cathédrale Sainte-Sophie au plein cœur de Kiev, qui est un siècle plus ancien que Notre-Dame de Paris. D'autre part, à côté, nous avons Saint-Michel sauté par le dynamite, par les bolcheviks contemporains de Notre-Dame de Paris, du XIIe siècle.
Oui.
C'est-à-dire, Kiev porte à la fois l'histoire ancienne, millénaire, n'est-ce pas ? Et à Kiev, il y a plus de 30 ans, était célébré le millénaire du baptême de Kiev. Donc, on sait que notre histoire déborde millénaire. D'autre part, nous avons devant nous les blessures, les traces du régime totalitaire soviétique, aussi de l'occupation d'une bonne partie de notre territoire pendant la Seconde Guerre mondiale, et maintenant, depuis 2014, l'annexion de la Crimée et l'occupation de certains parties à l'Est. Les manuels d'histoire d'Ukraine, effectivement, sont tracés à la fois par une longue temps de la culture qui remonte justement aux Byzances, évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire tout l'enseignement, et traduction des livres, série des méthodes, jusqu'à l'invasion par les Mongols. Mais ensuite, il y a aussi cette histoire, justement, l'Ukraine et la Pologne, l'Ukraine et Lituanie, l'Ukraine et l'Europe.
Et la Suède, oui, mais l'Europe.
La Suède, on n'oublie jamais que la fille des princes de Kiev, Yaroslav le Sage, Anne de Kiev, était la reine des France. Et donc, toute cette appartenance à la famille européenne de façon à la fois très concrète et hautement symbolique évidemment, ça fait, je dirais, l'imaginaire pour les Ukrainiens que nous appartenons à cette famille-là, à la fois par la culture, par les lettres, par la musique, mais aussi par la défense. Par exemple, les Ukrainiens ont participé dans une bataille près de la Vienne pour libérer l'Europe de l'invasion turque, etc., etc. Et plus près de nous savons parfaitement que les Ukrainiens, dans la Seconde Guerre mondiale, ont donné plus des soldats que les armées mises ensemble, américains, français, britanniques, etc. C'est-à-dire que l'Ukraine a payé très cher notre liberté. Et à l'heure actuelle, et permettez-moi de conclure là-dessus, dans les territoires occupés à l'est et au sud de l'Ukraine, aujourd'hui, il y a plus de 3500 professeurs ukrainiens qui sont obligés d'adopter en classe les manuels publiés en Russie. C'est-à-dire, aujourd'hui, le régime poutinien règle l'intérêt des manuels scolaires à l'aide des Kalachnikov que vous avez évoqués, c'est-à-dire avec l'artillerie, et les enseignants ukrainiens qui refusent d'imposer aux enfants les manuels russes s'exposent à subir des longues interrogatoires et des tortures.
D'accord, donc il y a également une mise au pas culturelle qui rend compte de cette tension multiséculaire. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, Constantin Sigov, en vous écoutant, que l'imaginaire historique ukrainien est un imaginaire profondément écartelé, Constantin Sigov?
Écoutez, nous préférons dire que voilà, nous avons à la fois les mosaïques, immense espace de mosaïques à Sainte-Sophie, et nous avons une mosaïque très complexe de l'Ukraine, de l'est à l'ouest, du nord au... on se débrouille dans une atmosphere des débats libres et des libertés, on se débrouille pour articuler cette polyphonie, cette pluralité, tout simplement, qui peut être aussi très enrichissante.
D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour cette précision, Constantin Sigov. Alors, venons-en, si vous voulez bien, Michel Fouché, à une histoire plus récente que vous avez suivie, vous, en tant que diplomate. C'est donc, qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de l'Ukraine à partir de la chute du mur? À partir de la chute du mur, il y a eu en 1994, le mémorandum de Budapest qui a réuni Boris Eltsine, le président biélorusse Chouchkievitch, et puis le président ukrainien Kravchuk. Que s'est-il passé à ce moment-là?
Ça, c'est avant.
Expliquez-nous.
C'est le 8 décembre 1991. Bah, les trois présidents, sous l'impulsion d'Yeltsine, de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine, enfin des républiques fédérées et fédératives, se réunissent dans une datcha, dans une forêt à côté de Minsk, à la frontière polonaise d'ailleurs, et règlent leur compte à Gorbatchev, secrétaire général du parti. Et donc, ils décident qu'il n'y a plus d'Union soviétique, une espèce d'abolition de l'Union soviétique comme entité géopolitique, avec ensuite l'idée de reconstituer quelque chose qui veut s'appeler la communauté des États indépendants. Et ceci conduit Gorbatchev à démissionner 2 semaines et demie plus tard, avant Noël, enfin avant la fin de l'année 91.
Alors l'Ukraine là-dedans,
y a un problème un peu pour tout le monde, y compris la France, qui est que l'Ukraine, comme d'ailleurs le Kazakhstan, dispose sur son territoire, sont stockées 600 têtes nucléaires.
Voilà.
Elles sont donc transférées. Il y a un système de transfert qui va prendre du temps, qui est l'une des conditions de la reconnaissance de l'indépendance.
Notamment par la France.
Moi, j'étais dans le bureau du directeur politique le jour où il me dit « Je suis en train d'écrire les conditions françaises de la reconnaissance de l'indépendance de l'Ukraine ». Et il y avait évidemment le transfert des armes nucléaires vers le sol russe.
Avec le retour à l'est.
Le retour au nord, vous voulez. Oui. En échange de la garantie du respect par la Fédération de Russie, la nouvelle Fédération de Russie, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Et tout ça est
de l'Ukraine.
Et tout ça est consigné dans le fameux mémorandum de Budapest de 1994.
D'accord. Donc ça, c'était la règle du jeu.
Ça, c'était la règle du jeu.
En 1994.
Mais ensuite, y a l'expérience Yeltsin. Enfin, il y a toute une série de trajectoires qui se mettent en place. Il y a en Ukraine clairement une référence à l'exemple polonais de la transition démocratique. Il y a des mouvements de construction nationale qui s'affirment, notamment tous ceux qui viennent des régions occidentales dont Constantin Tsekhov a parlé tout à l'heure, qui n'ont été annexés par Staline qu'en gros, véritablement à partir de 1945. Et c'est là qu'on trouve, si vous voulez, au début, conscience nationale très très forte. Elle est évidemment moins forte à l'Est, mais comme l'Ukraine est un pays bilingue, pour le dire vite, cette mosaïque... Elle pose pas de problème. Il n'y a pas de tension interne parce que chacun parle dans sa langue. On peut changer de langue, etc.
D'accord.
D'après ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Moi, je suis pas spécialiste des langues, mais en effet, l'attraction de la transition. Quand on voit en Ukraine les anciens pays satellites se démocratiser, faire candidature à l'Union européenne, ça donne des idées et ça va déboucher.
Une sorte de contagion occidentale, démocratique.
Mais de même qu'il y a eu une contagion dans les pays baltes à partir de la Suède ou de la Finlande, etc. Donc il y a la révolution orange de 2003, et il y a surtout le grand mouvement de Maïdan de 2014. Voilà. Et c'est là que les choses se compliquent parce que à l'époque, l'Ukraine est encore électoralement très très divisée. Moscou va réagir évidemment très mal à l'échec politique du président Yanukovych et au rapprochement en cours avec l'OTAN et avec l'Union européenne.
Voilà.
Mais quand je vais en mission officielle en juillet 98 avec le ministre des Affaires étrangères pour préparer le voyage de Chirac de septembre 98, qui est le premier voyage d'un président français dans la nouvelle Ukraine indépendante, déjà, il était question à la fois d'argent, le Fonds monétaire international, le pays était en crise absolue, et déjà, il était question de sécurité.
Déjà
en 98, recherche de garantie de sécurité.
Voilà.
Parce qu'on voyait bien que ça n'était pas facilement accepté.
Par Moscou, parce
que c'était une situation de faiblesse à l'époque de Yeltsin.
Voilà, déjà, il y avait cette difficulté qui était en germe. Constantin Tsekhov, je me tourne vers vous, depuis l'Ukraine, vous avez participé à cette révolution dite de Maïdan. Comment vous avez compris à l'époque, comment vous avez ausculté, analysé l'évolution de l'attitude de Moscou face à cette révolution démocratique à laquelle vous avez participé en Ukraine, Constantin Tsekhov?
Bon, il était très clair pour nous que dans le traité d'association de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est surtout les paragraphes politiques qui étaient gênants pour les Russes, alors que les Occidentaux regardaient, les pages d'ailleurs beaucoup plus développées sur le volet économique. Je crois que la révolution de Maïdan s'appelait Euromaïdan, c'est-à-dire vraiment les drapeaux européens jouaient un rôle à côté du drapeau ukrainien. C'était l'idée absolument claire et forte que voilà, on veut sortir du giron néo-soviétique, on veut vraiment couper court avec cette mainmise néo-stalinienne, parce qu'on savait que dans les sondages en Russie, c'est le Staline qui est en tête du peloton.
Oui.
Et on sentait le danger après la guerre menée par les Russes en Géorgie, avec une bonne partie des territoires géorgiens occupés. Donc c'était vraiment déjà la question de notre liberté, et la vôtre aussi, parce qu'on savait qu'il s'agit du danger pour l'Union européenne.
Oui, vous faites ce lien-là.
La haine véhiculée par la télévision russe, Michel Fouché a parfaitement raison de dire que dans notre pays, évidemment, tout le monde comprend l'Ukrainien et le Russe, et donc on a vu chaque jour à travers la télévision russe combien l'Union européenne est détestée, combien la volonté de diviser l'Europe et ensuite gérer les affaires tête à tête avec les plus petits et les plus grands pays était vraiment la volonté de diviser et régner en Europe. Et donc on savait pertinemment le danger général pour l'Europe et que nous sommes en quelque sorte sur cette première ligne, sur effectivement l'avant-poste de cette bataille qui est devenue beaucoup plus claire à Paris à partir du 24 février, mais qui était déjà claire plus ou moins après l'annexion de la Crimée.
Les racines du présent. RCF.
Dans cette édition du Racines du Présent, au micro Frédéric Mounier, comme chaque semaine, et bien dans cette édition des Racines du Présent, nous essayons de retracer avec nos deux invités l'histoire de l'Ukraine, une si vieille histoire aux confins de l'Europe et de l'Asie. Nous sommes en compagnie de Michel Fouché, géographe diplomate qui a participé de l'intérieur au travail diplomatique avec les Pays-Baltes, notamment puisqu'il a été ambassadeur à Riga, mais aussi avec l'Ukraine. Je rappelle le titre de son dernier ouvrage, Ukraine-Russie, la carte mentale du duel. C'est publié chez Gallimard dans la collection Tract. Et puis nous sommes aussi en direct depuis l'Ukraine avec Constantin Sigov, philosophe ukrainien, qui a publié au début du conflit une lettre de Kiev aux éditions du Cerf dans la collection Placard et Libelle. Alors Michel Fouché, je reviens avec vous sur cette histoire du XXe siècle que vous avez commencé à retracer. Vous évoquez dans votre livre la thèse du secrétaire d'État américain Zbigniew Brzezinski, que vous avez bien connu, qui explique que sans l'Ukraine, la Russie cessera d'être un empire en Eurasie et que donc l'Ukraine était vécue comme une tête de pont démocratique. Quel était le rôle des États-Unis dans cette affaire, Michel Fouché?
Alors Brzezinski, il précise ça, il écrit en 97 et il dit après 2010.
Mmh. D'accord, c'est une projection historique.
Et ce qui m'a frappé, c'est que le ministre des Affaires étrangères que nous rencontrons en juillet 98, Boris Tarasiuk, il répète la même chose. Et ce que j'ai appris grâce à des relations
diplomatiques,
oui. C'est que ce texte avait été traduit en russe, c'était l'un des quatre textes occidentaux étudiés à l'Académie militaire de l'état-major russe.
Mmh.
Donc, ça m'a vraiment interpellé, parce que tenait un élément.
Oui.
Il est clair que sans l'Ukraine, la Russie ne peut plus se penser comme un empire.
Voilà, c'est ça le fond.
Oui. Je ne cherche pas d'explication unique. Notre ami philosophe sait qu'il n'y a pas de causalité unique. Mais ça fait partie, si vous voulez... Hein, il a parlé d'avant-poste entre l'Union européenne et la Russie, une Russie qui n'accepte pas. Pourquoi est-ce que la Russie ne peut pas accepter l'Union européenne? C'est pas seulement une question de rapport de force,
oui.
Parce que c'est un bon client, c'était.
Oui.
C'est parce que l'Union européenne, et j'ai vraiment redécouvert ça en écrivant le tract chez Gallimard, c'est quoi? C'est pas seulement des accords, des traités, le grand marché. L'état de droit, Montesquieu plus le marché, si vous voulez.
Oui.
C'est quelque chose de plus important à la base, qui est un processus deux par deux de réconciliation nationale après les conflits. Ça commence avec la France et l'Allemagne.
Mmh.
Et ça va pas de soi.
C'est ça.
Les Français n'en voulaient pas de cette réconciliation.
Oui.
C'est les Américains qui poussent.
Mmh.
Parce qu'il y a Staline en face. Et les partis communistes. Ensuite, après 91, c'est l'Allemagne et la Pologne. Vous imaginez l'ampleur des contentions entre l'Allemagne et les Pologne, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de travail d'histoire dans aucun des deux pays là-dessus à ce moment-là. Et donc les Allemands, Genscher, demandent à Roland Dumas de les aider à prendre langue avec les Polonais. On va créer un truc qui s'appelle le triangle de Weimar.
Mmh.
Et puis après 91, très tôt, des intellectuels polonais de la revue Cultura, réfugiés en France, convainquent le gouvernement polonais, notamment Kwaśniewski, mais d'autres aussi, de reconnaître tout de suite l'indépendance de la Lituanie et de l'Ukraine, c'est-à-dire des frontières, pour éviter que des courants d'extrême droite en Pologne ne revendiquent à nouveau Vilnius et la Galicie occidentale.
D'accord.
Et un processus de réconciliation se met en place. Quand on sait ce qui s'est passé entre 42 et 44 entre les Polonais et les Ukrainiens, on voit qu'on vient... Mais il y a des cicatrices partout.
Oui, partout.
Donc c'est ça le cœur.
Dont nous n'avons pas idée, nous.
Nous, Français. Mais ça fonctionne.
Oui.
Et ce processus-là...
De réconciliation.
Il bute sur la Russie.
Voilà.
Il n'est pas possible.
Qui ne peut pas en vouloir.
Elle n'en veut pas parce que...
Parce qu'elle est dans une logique impériale.
Une logique dominante. Une logique hégémonique. Une logique... Mais voyez, il y a une butée.
Oui.
Même entre Pologne et Ukraine. Bon, il y a encore du travail à faire, mais il n'y a pas que les commissions d'historiens, si vous voulez.
Alors,
et c'est ça le cœur de...
Voilà.
C'est à la fois la démocratie et puis une façon de...
C'est la butée.
Reconstituer, de se réconcilier, non pas sur la base d'un récit falsifié, mais sur la base des faits historiques.
Mmh. Constantin Sigoff, vous écrivez dans votre lettre de Kiev publiée aux éditions du CERF que Vladimir Poutine, je vous cite, veut rompre avec le système international tel qu'il s'est constitué après 1945, avec notamment la primauté des droits de l'homme. Comment analysez-vous aujourd'hui ce point de butée que vient d'évoquer Michel Fouché entre une conception impériale soviétique russe, voire néo-stalinienne, et une conception européenne faite de ces réconciliations possibles en dépit des cicatrices fondamentales, Constantin Sigoff. Est-ce qu'on bute là-dessus ?
Oui, exactement. Exactement. Si vous voulez, après l'assassinat de Anna Politkovskaya et de Boris Nemtsov, son adversaire, Nemtsov pouvait devenir président de la Russie, il était tué devant le Kremlin. Mm-hmm. L'impunité des crimes va de pair donc avec cette politique d'amnésie nationale dont nous analysons. Et je crois que c'est la crainte qui finalement il va apparaître, Poutine et ses camarades, devant un tribunal international, analogue tribunal à celle de Nuremberg, explique en fait pourquoi, consciemment ou pas, ce régime criminel a tellement pétu, tellement sans frein, ils ont peur tout simplement, ils sont tétanisés par la peur que l'OTAN pour eux représente effectivement une ombre, une possibilité, oui, une figure possible du tribunal de Nuremberg. C'est ça que j'explique.
Pour eux-mêmes, pour eux-mêmes, à ce moment-là.
Kiev, oui. Et donc, par exemple, l'interdit des mémorials, l'interdit de donc l'association qui étudie, oui, les crimes de Staline et qui éclaire de cette façon aussi là les tabous exercés par Poutine et Medinsky que vous citez, ça montre précisément que ce sont les gens qui ont peur de tous les dossiers des crimes d'État qui sont commis par Kremlin.
Michel Fouché, quel est votre regard de diplomate ?
J'observe simplement que, vous savez, les diplomates, quelquefois, ils s'intéressent à la chronologie.
Oui.
L'interdiction complète de mémorial, c'est le 22 février 2022. Deux jours avant. C'est un signal faible, comme on dit, oui, en prospective.
Oui.
Mais en effet,
significatif.
Il y a eu une réécriture, oui, complète de l'histoire. Et encore une fois, c'est l'homme, c'est la cheville ouvrière de cette réécriture, le ministre de la Culture pendant 10 ans, qu'on envoie en Turquie, une ou deux fois, pour éventuellement discuter avec les Ukrainiens. Mais c'est pas possible.
C'est pas possible. Parce que là, on est devant deux logiques qui sont fondamentalement opposées.
Et donc, la conclusion, c'est que les Ukrainiens sont conduits à combattre pour défendre leur souveraineté nationale, à défaut d'être reconnus. Hein. Actuellement, comme ils ne sont pas reconnus au plan du symbolique, il faut bien qu'ils soient reconnus sur le champ de bataille.
Voilà. Mais on a envie de vous demander, Michel Fouché, en vous écoutant, alors évidemment, il est facile de réécrire l'histoire avec le temps, mais comment avons-nous pu, nous en France, être aussi aveugles depuis des décennies face aux symboles annoncés de cette catastrophe militaire aujourd'hui ?
Je crois qu'on a toujours vu l'Ukraine comme une arrière-cour de la Russie.
Et donc on laissait faire.
Eh ben parce
assez
que
naturellement, comme on a laissé faire la Crimée.
En Allemagne, il y a une complaisance. Oui. Alors en Allemagne, il y a les intérêts économiques, la mauvaise conscience historique et un modèle les liens établis par plusieurs personnalités dont la moindre n'est pas le chancelier Schröder quand même, qui est au conseil d'administration de Gazprom. Hein. Bon, même Madame Merkel
et qui
n'arrive
a résisté
pas
très très longtemps aux pressions pour sa démission.
Et même Madame Merkel, dans des conférences récentes, ne reconnaît aucune erreur. Scholz commence à le faire, le nouveau.
Oui.
En France, il y a on a vu la Russie à la fois comme un partenaire possible. Ça s'est un peu dégradé avec la Syrie au Conseil de sécurité, cette idée-là. On a vu la Russie non pas comme une grande puissance réémergente, mais comme un grand marché émergent à 3 heures de vol de Paris. Donc, le tiers des réserves de gaz de Total se taille à mal. Renault, c'est plus d'un demi-million de voitures. 250 magasins Leroy Merlin. Tout ça, c'était parfaitement logique.
Voilà.
Et puis, cette vieille alliance franco-russe de revers. Il y a des phénomènes d'inertie dans la diplomatie, si vous voulez.
Donc, pour tout cela, nous avons été conduits.
Et ça n'est pas terminé.
Oui.
Ça n'est pas terminé.
C'est-à-dire
certains responsables politiques français évoquent déjà les négociations. Il faudra reprendre langue, etc. Et moi, je suis d'accord avec Constantin Sigov. On n'a pas négocié avec Hitler.
Voilà, c'est du même ordre. C'est du même ordre.
Je crois que c'est du même ordre.
Oui.
Si vous voulez, ce que fait Poutine, ramener la guerre en Europe, qui s'est construit après 1945 sur la réconciliation, j'indiquais tout à l'heure, et sur le plus jamais sain, c'est pour moi impardonnable.
Oui.
C'est impardonnable. Et là, quand je ne parle plus en tant que diplomate, je parle en tant que citoyen français européen. L'Ukraine fait partie de la famille européenne désormais. Ça va être confirmé la semaine prochaine au Conseil européen. Je n'ai aucun doute là-dessus. Symboliquement, c'est important. En fait, ils ont surtout besoin d'armements lourds. Et ce qui se passe actuellement ne peut pas faire l'objet d'une grande négociation générale.
D'accord.
Mais ce que je crains, c'est que un certain moment, les Américains, si Biden perd les élections de moyen terme en novembre et que s'il y a un troisième mandat à Pékin au 20e congrès, les Américains disent aux Ukrainiens, écoutez, maintenant, il faut quand même un peu cesser le feu, négocier, vous perdez le Donbass et puis après, on verra. Donc, on va s'installer dans une situation qui ressemble à celle de l'Alsace-Moselle en 1871, suivi d'une guerre 43 ans plus tard.
Constantin Sigov, vous partagez ce point de vue sur le caractère absolument impossible de ces négociations et pourtant cet horizon assez sombre que évoque Michel Fouché ?
Oui, il ne faut pas donner des signes de faiblesse parce que ça va provoquer l'agresseur à aller beaucoup plus loin.
Oui.
Il comprend effectivement uniquement le langage de force. Je crois qu'il faut regarder cette réalité en face. Il faut aussi comprendre combien est nuisible cette poutinisation de certains nombres des élites en Occident. Vous avez cité Schröder et ses homologues en Italie ou en France. Donc il faut comprendre très clairement que ce que Poutine apporte, c'est la mort, mais pas seulement pour les personnes, mais pour les sociétés, pour les institutions européennes. Et s'il n'avait pas été si stupide, il pouvait briser l'Union européenne, mais avec les bombardements en Ukraine, il a gâché une partie des fonds qu'il a investis pour corrompre les opinions publiques occidentales. Donc le moment est venu de se désintoxiquer.
Vous voulez dire qu'il aurait... Vous voulez dire, Constantin Sigov, que Vladimir Poutine aurait peut-être mieux fait de poursuivre la guerre hybride qu'il mène avec l'Occident, notamment la guerre numérique. On sait que les Russes ont beaucoup participé à une déstabilisation du paysage politique français par le numérique. Vous pensez qu'il aurait mieux fait de s'en tenir là plutôt que de faire tonner les canons, Constantin Sigov ?
Oui, c'était la stupidité. Il vraiment ne savait pas la réalité et combien la résistance sera forte. Mais aujourd'hui, puisque les masques sont tombés, puisque Emmanuel Macron était à Irpigne, on a vu les massacres à Boutcha et dans d'autres villes d'Ukraine. Donc on peut plus jouer avec le feu et on peut plus revenir à business avant.
C'est ça. Rien ne sera plus jamais comme avant. Oui.
Voilà. Et donc il faut tout simplement faire tout pour que cette machine militaire, agressive aussi et cybernétique ne soit pas aussi virulente et nuisible pour l'Europe tout entière.
Très bien. Alors maintenant se pose, Constantin Sigov, la question de l'adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'Union européenne. Beaucoup de Français ont regardé avec grand appétit sur Arte la fameuse série télévisée Serviteur du peuple, où on voit Zelensky qui joue le rôle qui sera le sien plus tard de président. Cette série est à la fois désopilante, drôle, caricaturale et à certains égards glaçante, car elle montre bien avec une forme d'autodérision, une sorte de soubassement soviétique ou post-soviétique dans la société ukrainienne. Quelle analyse peut-on faire aujourd'hui, Constantin Sigov ? Est-ce qu'il faudra du temps à l'Ukraine pour accéder à un certain nombre de standards européens en matière d'état de droit, de corruption, de liberté publique, Constantin Sigov ?
Vous savez, depuis quatre mois de la guerre terrible, je crois que nous avons aussi beaucoup changé, beaucoup évolué. On sera beaucoup plus intransigeant aussi par rapport à l'état des droits, par rapport aux règlements juridiques et autres, face à la corruption. Je crois qu'il faut tout simplement aider justement à l'Ukraine de faire sortir du soviétisme pour notre pays et pour nos pays voisins. Je pense aussi à Belarus et aux autres. Mais je crois qu'il y a toute une partie de notre pays qui, de façon beaucoup plus grande, après la révolution de Maïdan, qu'il était appelé à juste titre la révolution de la dignité, donc c'est vraiment multiplié à toutes les régions d'Ukraine l'idée qu'il doit être beaucoup plus solidaire dans notre respect, justement, du droit. Par exemple, même par rapport au massacre, les Français étaient étonnés que les Ukrainiens n'aient pas versé dans les sentiments, dans la haine, etc. Il dit qu'il faut vraiment réunir tous les faits et juger. Il faut que tout ça soit traduit en justice. Donc oui. L'idée de la justice, des lois, des voilà, retours, on sait.
C'est une idée qui fait son chemin, c'est ça.
Voilà, oui. Et le droit de l'homme et l'état des droits, c'est vraiment la condition sine qua non pour la vie. Et si on veut choisir la vie, il faut tenir à cela.
Très bien. Alors, on arrive bientôt au terme de cette édition. Michel Fouché, dans votre petit livre « Ukraine-Russie, la carte mentale du duel » qui est publié chez Gallimard dans la collection Tract, vous évoquez deux avenirs possibles. D'une part, une forme de syrianisation, donc à l'instar de la Syrie, peut-être de partition, le gagnant serait celui qui ne perd pas. Et puis vous évoquez ensuite une autre hypothèse, Michel Fouché, je vous cite, une Russie ayant secoué le joug autocratique et démocratisé à la suite d'une révolution de palais et d'un changement de régime, toujours lié à des défaites extérieures, et bien cette Russie-là, écrivez-vous, Michel Fouché, serait capable de nouer une relation apaisée avec l'Ukraine. Alors, lequel de ces deux scénarios peut-on privilégier, Michel Fouché?
On peut souhaiter le second, mais pour l'instant, c'est le premier.
Oui.
C'est le premier. Non, c'est sûr que dans l'histoire russe, il y a toujours un lien entre les défaites ou les succès extérieurs et les changements de régime.
Mmh.
Grande guerre patriotique, ça renforce Staline. La guerre de 1905 ou de 1917, ça affaiblit complètement et ça provoque même un changement de régime. Mais là, la révolution de palais, on n'en voit pas vraiment de signe parce que on a un système autocratique, aucune expression d'opposition publique ou même privée n'est tolérée. Il y a eu des phénomènes d'épuration, de mise à l'écart de gens très très importants.
Mmh.
Hein, et donc malheureusement, comme le disait Constantin Segoff, hein, c'est le rapport des forces. Et Constantin Segoff a évoqué Poutine et la mort. Le général de Gaulle raconte un dîner avec Staline en 44. On avait besoin de Staline, évidemment, et réciproquement. Et Staline lui dit à la fin, mais à la fin, celui qui gagne, c'est la mort.
Ouais.
Hein? Il y a quelque chose. Et donc.
Il y a quelque chose de noir.
Ce que dit Constantin Segoff. Et je crois qu'on devrait terminer là-dessus. Et pas seulement parce qu'on est à RCF.
Ouais.
Hein?
Mm-hmm.
La vie.
Ouais.
C'est la vie.
Mm-hmm.
Ah, dans toutes ses dimensions de respect des faits, d'attention, de bienveillance. D'état de droit, le rôle de la procureure d'Ukraine, tout à fait fondamental. On est très étonné en France que, en même temps, il y a le combat sur le front et puis il y a des gens qui font ce travail-là en même temps. Et je crois
ce travail très minutieux,
donc
très précis,
on doit être du côté de la vie.
Oui. Constantin Segoff, quelle est votre vision de l'avenir aujourd'hui?
Écoutez, la vision, c'est grâce au travail, par exemple, fait par rapport à la présence de l'Ukraine sur les cartes mentales en Europe, je crois, être tout simplement plus près de la réalité. Le grand russisant allemand Karl Schlögel disait que c'est une immense lacune, l'absence de l'Ukraine sur la carte mentale des Occidentaux. Dans ce sens-là, le travail de Michel Fouché, des journalistes, des meilleurs qui travaillent aujourd'hui en Ukraine, c'est précisément l'idée que, justement, cet retour à la réalité, c'est la défense de la vie. C'est-à-dire que si mentalement on exclut L'autre, on efface de la carte, de la vie, etc. C'est ensuite, c'est l'intention génocidaire qui entre dans la pratique. Donc, je crois que dans ce sens-là, c'est le moment que les gens qui appellent chat en chat, qui font une description précise, ils défendent à la fois l'existence même de nous tous, pas seulement des Ukrainiens, mais des Européens. C'est le moment de la vérité pour vivre ensemble dignement. Et dans ce sens-là, je crois que ce dialogue-là permet d'éclairer et n'est plus être dépendant des lacunes, des dandies. Il n'est plus assister au fait que si quelqu'un prétendait redessiner justement la frontière entre la France et l'Allemagne à cause de Charlemagne, oui, et prétendre changer l'histoire européenne, donc n'est plus être dépendant de ce type de folie. D'être libre.
Si je vous entends bien, Constantin Sigoff, nous sommes à un moment absolument essentiel, non seulement de votre histoire en Ukraine, mais de notre histoire en Europe et en France.
Oui. Quand les journalistes français parlent en Ukraine du zone libre et de zone occupée ou des rafles pratiquées dans les zones occupées, effectivement, il s'agit d'une libération de choses qui ne sont pas été opérées après la Seconde Guerre mondiale, mais nous libérer de cet autre type de totalitarisme soviétique ou néo-soviétique avec Poutine, c'est enfin libérer l'Europe tout entière.
Michel Fouché, peut-être un dernier mot ultime avant de terminer cette émission. Vous qui avez été ambassadeur en Lettonie, dans les États baltes, peut-on être inquiet en ce moment des tensions autour de Kaliningrad, ex-Königsberg, autrefois en Prusse orientale?
Ah bah, Il faut faire confiance au Kremlin pour dramatiser les choses.
Oui.
Alors, faut regarder dans les détails. Il y a quelques contrôles sur
des
transports de marchandises. Oui. Faut être assez prudent quand même. Hein, mm-hmm. Nos amis lituaniens sont souvent très radicaux.
Oui, parce qu'ils savent de quoi ils parlent, peut-être, non?
Oui, mais aussi parce qu'ils ont une nostalgie impériale partagée avec la Pologne. Donc, faut faire un peu. Ils sont parfois pas très raisonnables. Moi, je dirais que ce sont des problèmes techniques et juridiques qu'il faut essayer d'éviter de dramatiser.
Très bien. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Michel Fouché, géographe et diplomate. Son dernier livre s'intitule Ukraine-Russie, la carte mentale du duel. Il est publié chez Gallimard dans la collection Tract. Et puis Constantin Sigoff, qui a publié au début du conflit aux éditions du Cerf dans la collection Placard et Libelle, une lettre de Kiev. Avec vous deux, nous avons remonté le cours de l'histoire ukrainienne, une si vieille histoire aux confins de la Russie, de la Suède, de la Pologne. Et nous avons vu à quel point les enjeux d'aujourd'hui sont des enjeux pour demain, de même qu'ils étaient des enjeux d'hier. C'est-à-dire que ce qui se joue, d'après nos deux invités, c'est bien d'une certaine façon l'avenir de l'Union européenne face à l'Empire russe, un peu comme une remise en jeu de ce qui s'est passé en 1945. Un grand merci à vous deux, un grand merci également à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur le site de RCF ainsi que sur vos plateformes de podcast favoris. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. À tout bientôt.